VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. En RDC, le président de la FECOFA, la Fédération Congolaise de Football, Constant Omari, est attendu au parquet de Kinshasa ce jeudi, dans le cadre des poursuites engagées contre lui et trois dirigeants sportifs, notamment pour détournement de deniers publics et privés. Monsieur Omari a été relâché mercredi soir après avoir été placé en garde à vue mardi avec ses trois co-accusés qui, eux, restent en détention. Plus de détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Constant Omari avait été entendu au parquet de Matete où il avait été interpellé à la demande des services du conseil spécial du président Kabila en matière de lutte contre la corruption, M. Luzolo Bambi. Il n'y a aucun élément qui démontre des faits de détournement par le président de la fédération. Cela ressemble plus à un complot, a déclaré l'un de ses avocats, rappelant l'état de santé préoccupant de ce dernier, par ailleurs vice-président de la CAF et membre du comité exécutif de la FIFA. Les trois autres détenus, c'est-à-dire les deux vice-présidents président de la FECOFA ainsi que le secrétaire général au sport et loisirs ont eux passé une deuxième nuit au parquet en attendant la poursuite des auditions prévues ce jeudi. Ces quatre dirigeants sportifs congolais sont poursuivis pour détournement des deniers publics et privés et atteinte aux droits garantis aux particuliers. Aussitôt après la libération de Constant Omari, la Ligue nationale de football qui avait annoncé plus tôt la suspension par solidarité avec le président de la FECOFA et deux de ses adjoints du championnat national est revenu sur sa décision. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Burundi, l'Assemblée nationale a adopté mercredi un projet de loi autorisant les perquisitions de nuit et sans mandat de magistrats. Initiative dénoncée comme une atteinte à la démocratie par la société civile et l'opposition à un mois d'un référendum constitutionnel. Le texte doit désormais passer devant le Sénat puis être promulgué par le président Pierre Nkurunziza le plus rapidement possible, a souligné un haut cadre du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, s'exprimant sous couvert d'anonymat. Burundi toujours, trois formations politiques de l'opposition, dont le parti de l'actuel vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa, ont écrit aux responsables de la région, de l'Union africaine et de l'ONU pour les mettre en garde contre les risques liés à la révision constitutionnelle si elle est adoptée en mai prochain. Mais pour Terence Ntayiraja, porte-parole du ministre burundais de l'Intérieur, la révision de la Constitution est du ressort de la souveraineté nationale. Et en outre, l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha a été scrupuleusement respecté, dit-il. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Il y a une semaine, Agathon Rwasa, vice-président de l'Assemblée nationale burundaise, Léonce Ngendakumana, vice-président du parti de l'opposition Front pour la démocratie au Burundi Frodebu, et Evariste Ngaïmenda, du parti de l'indépendance Union pour le progrès national, ont sorti un mémorandum qui fustige la révision de la constitution qui suivra le référendum du 17 mai prochain. Pourquoi avoir crié à la région et à la communauté internationale, Léonce Ngendakumana, vice-président du Frodebu?
Le mémorandum s'inscrit alors dans le cas d'alerter l'opinion nationale et internationale, particulièrement le peuple burundais, les garants de l'accord d'Arusha, les dépositaires de l'accord d'Arusha, sur les risques de la révision unilatérale de cette constitution qui remet en cause tous les acquis de l'accord d'Arusha. Ça, c'est la première chose. Deux, nous avons fait la motivation pour le rejet de ce référendum. Trois, nous avons fait une analyse comparative de l'accord d'Arusha et la constitution qui en est issue d'une part et du nouveau projet de constitution d'autre part pour démontrer finalement que si cette constitution était adoptée, on ne parlera plus de l'accord d'Arusha, on ne parlera pas de l'état de droit au Burundi, on ne parlera pas de l'état démocratique.
L'assistant du ministre de l'Intérieur, Terence Ndahiraja, s'inscrit en faux contre ce mémorandum. Ndahiraja indique à VOA Afrique que ses opposants ont d'autres objectifs.
Le premier objectif, c'est d'arrêter le processus référendaire en cours. Nul n'ignore que le processus de révision d'une constitution relève de la souveraineté d'un pays et de son peuple. Deuxièmement, ils disent le mensonge comme quoi les acquis de paix, de sécurité, de cohésion sociale seraient mis en épreuve. Ça, c'est faux et archi faux. De surcroît, ils ont dit que son projet de constitution est de nature à enterrer définitivement l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. C'est vraiment un propos honteux, à mon avis. Parce que si je vous cite quelques articles du projet de constitution relatif à la Corse d'Arusha, vous serez étonné. Et enfin, ils disent que le projet de constitution va mettre fin définitivement aux droits de minorité politique et ethnique. J'ai évité d'expliciter, c'est dommage.
Ce référendum sur la constitution est programmé pour le 17 mai prochain. Pour la commission électorale nationale indépendante, tout le matériel est déjà disponible et sera acheminé la semaine prochaine dans les 19 provinces qui composent le Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Sénégal, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène ce jeudi à Dakar des manifestants qui protestaient contre le vote d'une révision du code électoral moins d'un an avant la présidentielle. Plusieurs opposants ont été interpellés par la suite, dont l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, le président du mouvement Agir Tierno Bokoum et une autre figure de l'opposition Malik Gakou de la formation intitulée Le Grand Parti. À l'Assemblée nationale, placée sous la protection de dizaines de policiers casqués et munis de boucliers, les députés ont entamé aujourd'hui l'examen d'un projet de loi imposant un parrainage à tous les candidats de la présidentielle, dont le premier tour est prévu le 24 février 2019. L'opposition et des associations de la société civile avaient appelé à protester aujourd'hui contre cette législation, malgré l'interdiction des manifestations dans le quartier où se tiennent les délibérations de l'Assemblée. Au Niger, fermeture du campus de Niamey après les violences entre étudiants et les forces de l'ordre mercredi. La décision a été annoncée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Plus de détails avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
C'est en début d'après-midi, alors que les affrontements se poursuivaient encore, que le ministre des Enseignements supérieurs, Yahouza Sadissou, a annoncé la décision de la fermeture du campus universitaire de Niamey.
Non, il va falloir fermer le campus pour que la stabilité, la paix revienne sur le territoire du campus. Mais nous n'avons pas fermé les facultés, nous n'avons pas fermé le restaurant universitaire et les bus vont assurer régulièrement le transport pour permettre à ceux qui désirent de continuer à étudier.
Un bilan provisoire annoncé dans le même communiqué fait état de 6 véhicules vandalisés au niveau du rectorat ainsi que des dégâts importants sur son bâtiment principal. Du côté des étudiants, l'on dénombre plusieurs arrestations et des blessés. Cita Gabiri, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey.
Il y a une centaine de camarades qui ont été arrêtés. Par rapport aux blessés, il y a 4 blessés graves qui ont tous été victimes d'un tir tendu comme ça a été le cas pour Bagalé. Cette mesure que le gouvernement vient de prendre de fermer la cité universitaire, c'est un schéma classique.
La manifestation qui a tourné en ces heures avait pour but de répondre à un mot d'ordre de la structure nationale des scolaires pour exiger la satisfaction d'un certain nombre de revendications, dont la principale est la réhabilitation de 5 dirigeants syndicaux des étudiants exclus par le conseil de l'université en mars dernier. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
À Cuba, transition qualifiée d'historique ce jeudi. Le président Raúl Castro cède le pouvoir à son vice-président Miguel Díaz-Canel après 6 décennies de pouvoir exclusif des frères Castro dans l'île antillaise. Les précisions de Jacques Aristide.
La session de l'Assemblée nationale cubaine a hier présenté Miguel Díaz-Canel comme seul candidat à la succession de Raúl Castro. Âgé de 57 ans, il va être le premier président cubain à être né après la révolution de 1959. Tout en laissant la place à une nouvelle génération, Raúl Castro, 86 ans, et d'autres vétérans de la révolution devraient conserver un rôle influent à la tête du Parti communiste, au moins jusqu'au prochain congrès du parti en 2021. Raúl Castro, qui a succédé à son frère Fidel il y a 10 ans, a d'ailleurs choisi une date symbolique de l'histoire politique cubaine pour son départ, puisque ce jeudi 19 avril est la date anniversaire de la mise en échec en 1961 du débarquement d'anticastristes soutenus par la CIA dans la baie des Cochons. Sur le plan des libertés, il est peu probable que Díaz-Canel engage à court terme l'île communiste sur le chemin du pluralisme, que ce soit sur le plan politique ou médiatique. Sur le plan économique, le nouveau président ne devrait pas non plus précipiter davantage que Raúl Castro les réformes initiées par Fidel dans la foulée de l'effondrement de l'Union soviétique, malgré l'impatience croissante des plus jeunes.
Et pour terminer, cri d'alarme du milliardaire Bill Gates concernant la résurgence du paludisme. Le philanthrope américain qui a participé à un sommet consacré au paludisme à Londres dénonce le manque de volonté politique pour en finir définitivement avec cette maladie qui a fait 445 000 morts en 2016, principalement des enfants de moins de 5 ans.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.